Un principe fondamental que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Concernant notre marche avec Dieu, je vais vous expliquer certains principes et on va voir plusieurs textes ce soir. On va regarder le psaume
91.
C'est un psaume qui est très connu. Il faut que vous compreniez certains principes de la vie spirituelle. Juste avant cela, vous regardez psaume 91, on va regarder 1 Corinthiens
2.
Vous voyez, pour comprendre un certain nombre de principes du monde spirituel, nous devons expliquer ça avec certains mots et un certain langage spirituel. Et ce langage spirituel, c'est quelque chose qui ne doit pas rester dans nos têtes. Avoir un beau langage comme beaucoup de chrétiens, mais ces vérités puissantes de la parole doivent descendre dans notre esprit. Sinon, ce sont des choses que nous n'arriverons pas à vivre. Des dimensions spirituelles que nous ne pourrons pas vivre sans que ce soit descendu dans notre esprit. Parce que rappelez-vous d'une chose, votre cœur, votre esprit, c'est ce qui est né de nouveau. Votre âme, elle n'est pas née de nouveau. Notre âme a besoin d'être renouvelée, construite par la parole, changée dans nos façons de penser, et il faut qu'elle apprenne à laisser couler ce que Dieu met dans notre esprit. Ça, c'est un principe fondamental de la parole.
Et
Paul va expliquer comment ces vérités spirituelles sont transmises au corps de Christ. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, au verset 6,
«
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, ceux qui sont saints mis à part. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons une sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestiné avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu. S'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » On peut lire versets 9 et 10.
Ariko nkuko handitswe ngo ivyigisho ritigeze kubona n'ivyo gutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabyiteguriye yabiteguriye abayikunda ariko Imana yabiduhishuriye muri muhemu wayo muhemu asesa byose nibishijwe by'Imana.
Tout ça, ça nous parle du plan de la rédemption, du rachat en Jésus-Christ. Ce que Dieu a réalisé au travers de lui. Mystère caché de toute l'éternité. Mais regardez ce que la Bible nous dit au verset 10. À nous, Dieu nous l'a révélé. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Car l'Esprit, le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous révèle ces choses. Si vous voulez que la parole de Dieu ait un impact, cette parole doit se révéler dans votre cœur. Cette parole ne doit pas rester dans votre tête seulement, mais cela doit devenir une révélation. Une révélation de la gloire de Dieu.
Christ a
fait. Verset 12, il est dit: Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Regardez bien le verset 13. C'est une clé importante. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Quand la parole est prêchée, que c'est la parole de Dieu qui est prêchée, quand elle est enseignée avec l'onction du Saint-Esprit par des ministères, alors cette parole doit avoir un impact dans la vie de ceux qui l'écoutent. Et cette parole est enseignée non avec une sagesse humaine, avec des raisonnements humains, mais la Bible nous dit avec ce qu'enseigne l'Esprit en expliquant des réalités spirituelles à des hommes spirituels. Verset
13.
Donc ce ne sont pas des discours de la sagesse humaine. Ce ne sont pas des enseignements qui sont simplement issus d'une réflexion humaine. Mais c'est avec un langage spirituel que nous pouvons transmettre les vérités de la parole à des hommes théoriquement spirituels,
c'est-à-dire
des personnes qui ont grandi dans le Seigneur, parce que la Bible nous dit un peu plus loin, c'est par la bouche de Paul que l'homme naturel inconverti ne peut pas recevoir ces choses. L'homme charnel, c'est-à-dire le bébé spirituel, celui qui n'a pas grandi
ou
peu grandi, qui vit encore beaucoup avec sa chair, il a du mal à comprendre un certain nombre de principes. Ce soir, je vais vous expliquer un certain nombre de principes de la formation que Dieu opère dans nos vies. En parallèle avec le psaume 91, nous allons regarder une référence biblique qui se trouve dans le Deutéronome au chapitre 32. C'est Dieu qui parle à son peuple. C'est une sorte de conclusion que Moïse avait en quelque sorte dans sa vie par rapport au peuple de Dieu.
Deutéronome
chapitre 32 au verset 10 et 11. Je vais vous expliquer ici un principe scripturaire. Certains parmi vous, vous passez devant des situations difficiles. Des situations vraiment difficiles. Deutéronome 32. Versets 10 et 11. Certains, vous ne voyez pas vos situations avancer. Et ce soir, je vais vous montrer une leçon spirituelle importante de la foi et aussi de la présence de Dieu. Voilà ce que Dieu dit à propos de son peuple d'Israël. Et bien sûr, c'est une image pour nous, l'Église. Et Dieu ici va nous donner une image extraordinaire. Il l'a trouvé, c'est Dieu qui l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il en prenait soin, il le gardait comme la prune de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes.
Baravuga kuva ku murongo wa 10 ngo yabasanze mu gihugu cy'ubugaragwa mu bugaragwa bw'ubwera nyange humvikana mw'ibihurira abakikiza ijya nino arababungabunga abazigama nk'imbone y'ijisho nk'uko inkukuma ikangura ivyana byayo mu cyari igahungiriza amababa hejuru yavyo igasanza amababa ikabijana ikabiheka ku mababa yayo.
Ce soir, je vais vous montrer une chose importante. Combien Dieu, vous aime chacun d'entre vous et qu'il prend soin Si seulement tu veux comprendre certains principes scripturaires. Vous savez, quand une situation ne se débloque pas, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Si une situation ne se débloque pas, si
on
n'a pas compris un certain nombre de principes scripturaires. Dieu ici nous explique qu'il a pris son peuple dans un endroit aride, en fait dans un endroit où il est en train de mourir. Dans un pays désert. Et c'est où nous étions dans le péché. Et là il va donner une image à propos de l'aigle et de ses petits. Et l'aigle et ses petits, la maman aigle a une façon d'élever ses petits assez particulière. Vous savez, les aigles, ce sont ce qu'on appelle les oiseaux de proie. C'est-à-dire que ce sont des animaux très spéciaux qui sont d'ailleurs capables de voir à plusieurs, je crois, centaines de mètres un petit point par terre et ils sont extrêmement habiles. L'aigle vole en se laissant porter par les courants d'air. Et en général, quand il remarque une proie, il tourne autour comme cela, tout doucement, en se laissant porter par le vent. Et avec ses yeux extrêmement précis, l'aigle est capable à plusieurs centaines de mètres de remarquer une petite proie. Et quand c'est le moment propice, d'un seul coup il ne se laisse plus porter par le vent mais pique comme ça. Et d'un seul coup, il arrache la proie et la tue avec ses ongles puissants. L'aigle est un animal très particulier. Surtout dans la façon dont il élève ses petits. D'abord, un aigle ne fait jamais un nid dans un endroit où il peut être menacé. Il fait toujours son nid à flanc de montagne. Vraiment à flanc de montagne, une montagne rocheuse. Et qui sont très abruptes, pas des montagnes qui font comme ça. Mais vraiment des montagnes rocheuses très abruptes où personne ne peut pénétrer. Il couvre ses œufs comme tous les oiseaux. Et en fait, ses œufs vont éclore. Les petits vont être donc choyés par la maman. Et elle va voltiger, elle va chercher des vers, elle va chercher toutes sortes de choses, toutes sortes de nourriture qu'elle ramène au nid. Ça c'est commun en général à tous les oiseaux. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas commun à tous les oiseaux. C'est la façon dont elle va leur apprendre à voler. Parce que ce nid, il est très bien protégé, mais il a un problème. Il a un problème, ce nid. C'est qu'on ne peut pas en sortir sauf si on sait voler. Vous ne pouvez pas sortir si vous êtes dans un trou de nid d'aigle. Vous
ne
pourrez pas en sortir à pied. C'est très bien protégé. L'aigle a choisi son endroit pour être protégé de tous les prédateurs. Mais l'inconvénient, c'est quand ces petits commencent à pousser, ben les petits doivent aussi sortir. Et ils n'ont jamais encore volé. Et la maman aigle,
hanyuma, nyina wavyo,
elle veut utiliser une méthode
hari uburyo akoresha, ikoresha,
que Dieu utilise ici comme image
nayo imana nicho gichapo iduha hano
pour apprendre à faire voler ses petits aiglons.
Iyo ngukuma nicho inivyo ikoresha kugira ngo yigishe ivyana vya kugurukana.
Quand les petits aiglons commencent à faire comme ça, ils commencent à être un peu plus forts.
Igivyana vyabonye ko bitangwe kuvyibuha byatangwe kubera ibigangi bigatangura kubona ko byogurukana vyo.
Dieu ayant bien fait les choses
imana ya,
dans sa création,
nuko yabikoze, nuko yakoze ibintu imana,
eh bien un jour
umwe,
elle va leur apprendre à voler.
Aho iyo nkukuma yigisha ivyana vyayo kuguruka.
Parce que vous savez, pour un oiseau, voler, c'est pas naturel.
Kubera burya kubwi inyoni kuguruka,
c'est pas naturel au départ. Ils apprennent.
Iravyiga, iravyigishwa.
C'est pas quelque chose qui du jour au lendemain, ils disent ça y est, je sais voler. C'est au fur et à mesure de la croissance. Si vous observez certains oiseaux, vous les verrez, ils apprennent à voler au début, c'est
rien.
Et puis ils prennent de la maturité, après ils volent bien. Ça, ça va quand le terrain est plat, c'est pas trop dangereux. Mais là, l'aiglon, il est un peu coincé parce qu'il n'y a pas de terrain plat, il est dans un trou et à flanc de montagne.
Iri ahantu icari kinyegejwe mu musozi kandi idashobora kugenda itambuka.
Il est très bien protégé.
Nukuvuga irakingiwe neza.
Personne ne peut venir le manger.
Nta numwe ashobora kuza ngo ayirye cyangwa ikintu ngo kirye.
Aucun prédateur ne peut venir dans ce
trou. Nta gikoko na kimwe cyoza ngo kirye.
Mais il doit apprendre à en sortir.
Ariko nayo yiga kuvayo.
Et là il va avoir une difficulté.
Hanyuma rero igacihura n'ingorane zimwe.
C'est qu'il ne peut pas s'entraîner.
Nuko nishobora kwigisha kuguruka.
Parce que dans un trou vous pouvez pas voler 2-3 mètres et revenir.
Kubera muri ako kanogo hariya ntushobora kuvayo ngo uguruke yamahongera ugaruke.
En toute sécurité.
Nukuvuga ngo ugende mu mutekano ntangere.
Si vous sortez du trou,
uvuyeyo,
et vous ne savez pas voler,
utazi kuguruka,
vous vous tuez.
Nukuvuga ucusezera.
Et la maman aigle connaît très bien ces dangers-là.
Inkukuma nayo nyina yazo ikabizi ivyo bintu byose.
Alors elle a une méthode.
Hanyuma ikabifise uburyo ikoresha.
Elle a une méthode.
Ikabifise uburyo ikora.
La maman aigle,
iyo nyina yavyo,
au bout d'un moment,
aragera igihe,
elle commence,
ichitangura,
supposez qu'ici c'est le bord de la montagne,
dufate ko ngaha ari ku mpera ya wa musozi,
que le trou est comme ça, qu'il y a le, toute la couvée qui est ici, des petits aiglons et de la maman aigle.
Dufate uko ikinogo cha kinogo kiri ngaha cha hamwe ivyana vy'inkukuma biri.
Elle va aider ces aiglons.
Hanyuma nyina yavyo ichikora ichibifasha.
Elle va les pousser.
Ichibisuguma.
Et l'aiglon, d'un seul coup, il se retrouve dans le vide. Et il ne sait pas ce qui se passe, c'est la première fois. Et il prend peur. Et d'un seul coup, il descend. Et il ferme les yeux. Et il dit, ça y est, c'est foutu. Je suis mort. Et d'un seul coup, la maman aigle vient et le prend sous ses ailes et récupère son bébé et le ramène avec puissance jusqu'au nid. Le petit aiglon est sauf.
Chana chingukuma kiga hemaneza kikaruhuka gitimvu yakomeye kwe.
Mais
ariko
quelque temps après
ha, chige,
et le petit aiglon il fait attention parce que quand sa maman se rapproche,
icho chana chingukuma kichaki tangura kugaba,
il sait que maintenant c'est plus seulement pour donner à manger.
Kubera kibakizi uko nyina ni yegera aho icyari kiri sugufyina,
c'est aussi pour pousser dans le vide. Parce qu'il est temps pour cet aiglon d'apprendre à voler. Il doit apprendre à se débrouiller dans la vie. Il doit comprendre un certain nombre de principes de la vie. Et il est tranquille dans le nid. Et dans un seul coup, il se sent poussé. Et là, ça recommence. Il dégringole. Il essaye avec ses ailes, il essaye de se débattre. Et encore, la maman aigle descend. Le récupère sous son aile. Et le ramène au nid. Encore une fois, il essaye. Et puis jour après jour il se développe. Il se développe. Et là encore sa maman va le pousser. Mais là il commence à prendre un peu plus d'assurance.
Et
développe ses ailes. Et là, bon, c'est un peu comme un avion qui, hein, dans tous les sens.
Mais commence à se débrouiller un peu.
Et encore sa maman, voyant qu'il est encore en danger, le
récupère.
Et le ramène sain et sauf au
nid.
Et puis jour après jour, ce petit aiglon prend de l'assurance. Et au bout d'un certain temps, il n'a plus besoin de sa maman pour le pousser. Il commence à réaliser que ses ailes marchent bien
et
que lui-même il peut apprendre à se laisser porter par les courants d'air et à ne pas se fatiguer. Et il commence à se débrouiller et pour la première fois il revient au nid tout seul. Et c'est là où il acquiert de la maturité. Et Dieu nous donne une image dans sa parole. Il nous donne une image. Vous savez, dans la vie spirituelle, vous n'apprendrez rien si vous ne vous laissez pas pousser parfois par Dieu dans le vide. Dieu nous demande de marcher par la foi. Si tu veux voir de grandes choses, eh bien tu vas apprendre des leçons. Les leçons de la vie spirituelle. Et parfois ça peut faire peur. Mais si Dieu te dit vas-y, marche dans ma parole, alors tu dois obéir. Et tu vas te sentir comme cet aiglon. Seigneur, j'obéis, je ferme les yeux. Non, Dieu te récupérera. Dieu te récupérera. Si tu es dans sa volonté, si tu marches dans sa parole, si tu marches dans la foi, Dieu te récupérera. Comme cette maman aigle qui va récupérer son petit avant qu'il aille s'écraser au sol. Dieu nous apprend un certain nombre de principes. Mais tu ne peux pas apprendre ça simplement en lisant ta Bible. La Bible te donne la connaissance. Mais après, il va falloir que tu pratiques cette connaissance. Et parfois Dieu va te pousser un peu dans le vide entre guillemets, te donner un petit coup de pouce, et là tu vas paniquer parce que souvent quand nous ne sommes pas habitués aux choses de Dieu, nous nous retrouvons devant des telles situations que nous sentons que tout ce qui est en dessous est parti, tout est parti. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Continue à me faire confiance et apprends à voler. Je te récupère. Je te récupère. La foi défiera vos sens. La foi défiera vos sens. Dieu veut un peuple qui marche dans la foi. Un peuple qui sait se jeter dans le vide par la foi et marcher sur sa parole, lui faire confiance et qui sait se laisser porter, qui se laisse porter par les courants d'air de l'esprit, par les courants d'air de l'esprit, frère. La vie spirituelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois tu te retrouves dans des moments difficiles et tu sais que tu fais ce que le Seigneur t'a demandé, tout va mal autour de toi, mais tu marches dans sa parole et Dieu veut que nous apprenions ces leçons de la vie. Parce qu'il est là pour te récupérer. Même si tu sembles chuter complètement dans le sens d'être complètement dans le vide, où tu n'as plus aucune sécurité, aucune assurance, sache une chose, il est là. Il est là. Regardons ce que la parole de Dieu dit à propos de ça. Et après on en viendra au psaume 91. Il y a de très très beaux verset de la parole de Dieu. Jean 10, verset 28. Jean 10, 28. Il est dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Personne ne les ravira, ne les arrachera de ma main. Mes brebis. Personne ne peut te ravir de la main de
Christ.
Personne ne peut te ravir de sa main. Ésaïe 49, verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tu peux être au milieu du danger. Tu peux être au milieu de la tempête. Tu peux être au milieu des circonstances. Sache une chose. Dans le ciel, à la droite de Dieu. Dieu le Fils. Se tient. En chair, avec ses mains percées, et tu as été gravé dans ses mains, dans les marques de ses clous. Ton nom est gravé. Regardons ensemble le psaume 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil et cache-moi à l'ombre de tes ailes. Zacharie 2:8. Juste avant Malachie, Zacharie. 2 verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire, et il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Vous savez, la prunelle de l'œil, c'est quoi? C'est ce qu'il y a au milieu. C'est la partie la plus sensible au travers de laquelle nous voyons. La pupille, si vous préférez, ce qu'on appelle en français.
C'est le petit truc
au travers duquel nous percevons tout. Et dans notre œil, quand on touche la partie qui est blanche, bon, ça dérange, mais pas trop. Si on a un choc dans cette partie-là, c'est pas trop grave encore. Mais si vous avez un choc dans la pupille, vous pouvez devenir aveugle. Et Dieu nous dit, celui qui te touche, il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Mes frères et sœurs, vous devez le savoir. Celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es quelqu'un d'important pour le Seigneur. Et tu dois apprendre à te réfugier en lui. C'est ce que le psaume 91 nous dit. Je prie pour que ce soit une révélation, frères et sœurs, dans vos cœurs. Et il y a une gloire à habiter dans la présence de Dieu. Et le psaume 91 nous révèle un certain nombre de principes ici. Dieu va te donner de vivre des choses qui sont en dehors de l'ordinaire. Vous savez, si la vie avec Dieu c'est ennuyant, si notre vie est ennuyante,
hein,
ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de foi. Quand on marche dans la foi, la vie est très risquée, mais elle est très intéressante. Je dis, ceux qui marchent dans la foi ont une vie qui est risquée, mais une vie qui est intéressante. Parce que je vous garantis, quand vous marchez dans la foi
et
que vous vous retrouvez devant l'adversité
ou
devant des difficultés et que vous savez habiter dans la présence de Dieu, alors il y a les choses les plus extraordinaires qui se passent. Le monde surnaturel de Dieu agit en votre faveur dans l'adversité, dans les moments les pires. La Bible nous dit au psaume 91 verset 1: celui qui habite ou qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors là, ça veut dire beaucoup de choses. Celui qui habite, ça veut dire habiter, être assis, se fixer, quelqu'un qui reste dans un endroit. Donc celui qui se fixe, qui habite, qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors l'abri, ça peut être traduit par un refuge, une protection. La traduction anglaise dit celui qui habite, donc qui demeure dans l'endroit secret du Très-Haut. L'endroit secret du Seigneur. Là où il est sous un abri secret du Seigneur. Quelque chose qui ne peut pas être touché. Quelque chose qui est couvert. Quelque chose donc qui est une protection. Et ça, c'est l'image de la présence de Dieu, bien sûr. Il est dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc il séjourne, ça veut dire, il habite. Il passe la nuit, dans notre, on pourrait traduire. À l'ombre, l'ombre. L'ombre, c'est ce qui peut te couvrir. Lorsqu'il y a la chaleur du jour, c'est ce qui t'empêche. Qui empêche que le soleil vienne et te brûle. Te dessèche si tu restes trop longtemps sans eau. Dans sa présence, il y a un temps où on peut se reposer dans son ombre. L'ombre, bien sûr, c'est l'image dans la parole de Dieu, de l'onction, de la présence manifeste de Dieu. Donc ceux qui savent demeurer dans la présence de Dieu apprennent à être sous un abri, sous l'ombre, l'ombre de Dieu. C'est un endroit où ils peuvent se cacher, se réfugier pour être protégés. C'est là où Dieu parle dans le secret dans leur cœur. C'est là où Dieu te révèle des choses. C'est là où il va te fortifier. C'est là où il va te donner ce dont tu as besoin. Alors que tout autour de toi, il peut y avoir la pire adversité. Tu peux être dans les pires moments de ta propre vie. Si tu sais de réfugier dans sa présence, alors je te garantis, tu peux vivre dans cette protection surnaturelle où tout ce qui peut arriver contre toi sera sans effet. Ça pourra t'affoler dans le naturel, mais si tu apprends à demeurer, à rester dans cette présence, c'est alors que tu seras fort, que tu seras puissant et que rien ne pourra venir te détruire. À l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge. Refuge, abri, retraite. Ce mot est utilisé contre la pluie, pour se protéger de la pluie ou de l'orage. Mon refuge contre le danger. mais aussi contre le mensonge et la fausseté. Il y a une protection incroyable alors que tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Les attaques peuvent venir de gauche, de droite, des mauvaises circonstances, des attaques sataniques, des gens méchants qui en veulent à ta vie. Si tu apprends à demeurer dans l'endroit secret, alors tu pourras voir les plus grandes des choses, tu pourras être protégé de tout ce que les gens veulent faire contre toi, tout ce que le diable essaye de planifier contre toi, tout ce que les circonstances essayent de faire contre toi, alors tu vas apprendre pour demeurer dans cette présence qui va t'aider d'une façon merveilleuse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, mon abri, ma retraite, contre la pluie, l'orage, le danger, contre le mensonge, la fausseté, et ma forteresse. Une forteresse, c'est un endroit qui est protégé par des grands murs, qui est théoriquement inattaquable. Tous tes amis peuvent t'abandonner. Tu peux être quelqu'un d'incompris. Si tu apprends à demeurer dans cette forteresse, à demeurer dans cette forteresse, je te garantis d'une chose, les forteresses humaines sont parfois attaquables, et parfois elles peuvent être détruites. Celles qui sont humaines, mais celles de Dieu ne sera jamais détruite, jamais détruite. Personne ne peut détruire la forteresse qui est Dieu.
Mais
quand tu dans sa présence, tu ne peux pas être touché si tu demeures dans cette présence. Verset 3, celui qui te délivre, qui te sauve, qui te protège, qui t'arrache, qui te sépare du filet de l'oiseleur, du piège, vous savez, dans la vie, parfois, les gens nous tendent des pièges. Parfois, le diable tend des pièges. Ça peut être à ton boulot. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être des faux amis. Ça peut être des traîtres. Ça peut être toutes sortes de gens qui planifient des choses contre ta vie. Et l'oiseleur, c'était quelqu'un qui mettait des filets comme ça entre deux poteaux,
autant
un grand filet. Et vous savez, les oiseaux en général, sauf certainement l'aigle,
mais
les oiseaux en général, quand ils volent et qu'il y a un filet comme ça, ils ne voient pas, parce que déjà ils vont vite en volant, d'autre part ils ne perçoivent pas suffisamment. Et ce qui se passe, c'est que d'un seul coup l'oiseau est en train de voler tranquillement, et d'un seul coup, hop, il se prend dans les mailles du filet et il ne sait pas ce qui lui arrive. Et parfois ça nous arrive, on est tranquillement dans le cours de cette vie, tout va très bien, et d'un seul coup on se retrouve pris dans un filet, que des gens nous ont tendus, que le diable nous a tendus, toutes sortes de choses,
des
circonstances nous ont tendues, et on se retrouve pris au piège. Et Dieu nous dit qu'il nous délivre, il nous sépare, il nous enlève, il nous arrache
de ce filet
dans lequel nous nous sommes pris. Nous nous sommes fait prendre, c'était pas notre faute spécialement, pouf. Et Dieu est celui qui nous fait sortir de cela, qui nous arrache de la peste et de ses ravages. la peste, mortalité,
tous
les fléaux qui peuvent essayer de venir. Parfois, il y a des gens qui découvrent des choses.
Dans leur
propre vie, des mauvaises nouvelles.
D'un seul coup, ils
aperçoivent qu'ils sont infectés de la maladie du sida, par exemple. Ou qu'ils ont contracté une maladie, ils ne s'en sont même pas aperçus. Et la mauvaise nouvelle tombe. D'un seul coup, la personne se sent complètement abattue. Dieu est là. Si tu es capable d'être dans sa présence, et si tu apprends à te réfugier, la gloire de Dieu tombera sur toi et tu seras délivré de ce filet. Ce filet dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles nous sommes, il y a toutes sortes de choses qui vont dans ce monde, dans le train de ce monde, des gens qui se font prendre au piège sans que ce soit de leur faute. Mais les circonstances sont là. Et Dieu a promis de nous en sortir. La peste de ses ravages, la calamité, la méchanceté des gens qui ont de l'avidité contre toi, c'est-à-dire qui veulent tes biens, qui veulent tes choses. Cette image d'être cerné de toutes parts, c'est-à-dire tu ne sais plus comment faire. Tu vas à droite, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas à gauche, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas devant, derrière, tu ne peux pas t'en sortir. Comme l'oiseau qui s'est fait prendre dans les mailles du filet. Le filet le serre. Coince ses ailes. Et ses ailes, c'est ce qui lui permettrait de se dégager. Il ne peut pas. Il est pris au piège. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que son ennemi, celui qui a essayé de l'attraper,
c'est
lui qui l'attrape,
hein.
Mais pas pour lui redonner la liberté,
pour
le mettre en prison dans une cage. Par contre, il y a une main plus puissante que l'ennemi, que les circonstances adverses. Et cette main, elle est là pour te prendre et te faire sortir de ce piège. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge. Il te couvrira de ses plumes. C'est le symbole de la protection. Il y a beaucoup d'images que Dieu donne dans sa parole à propos de Dieu et des oiseaux,
cette protection.
Ça me fait penser à l'histoire d'une poule. C'est quelqu'un qui prêchait l'évangile et qui donnait cette image. Et il disait, un jour il y avait eu le feu dans un champ, et quand on a nettoyé le champ, on a découvert une poule qui était morte. Et quand on a commencé à enlever le corps de la poule, quand ils ont enlevé cette poule, c'est de la protection que le Seigneur m'a mis à cœur. Et en fait, quand ils ont enlevé cette poule, les petits, ils étaient encore vivants. Et c'était une belle image que ce frère donnait quand il prêchait l'évangile. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons protégés de la mort. Il y a des superbes promesses dans la parole de Dieu. Je
ne
sais pas à qui c'est adressé ce soir, mais c'était très fort dans mon cœur quand Donc Dieu nous protège sous ses ailes. Mais il y a un autre terme qui a été utilisé ici. Ce mot qui est traduit là, par sous ses ailes, ou protéger sous ses ailes, c'est aussi un mot qui est traduit par le pan du manteau. Et là, ça me fait penser, bien évidemment, au bord du vêtement de Christ. cette protection, cette puissance qui coulait
quand
les gens dans l'évangile venaient
et qu'ils
touchaient le bord de son vêtement, et la puissance de Dieu venait changer ces situations désespérées et redonner cet espoir à ceux qui étaient désespérés dans ce monde,
être
touchés par sa puissance, où la guérison se manifestait, où la gloire de Dieu était là.
Et
c'est pour ça que les gens voyaient cela.
Ils voulaient
être touchés par le bord de ce vêtement, et c'est cette image dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu est là dans sa présence, lorsque nous sommes prêts à l'adorer, lorsque nous sommes prêts à l'adorer de tout notre cœur, alors la protection divine est là. Tu commences à te réfugier dans sa présence et au milieu de l'adversité. Il est là pour te transmettre les forces, la puissance dont tu as besoin, pour que dans cette vie tu ne puisses pas te décourager en quoi que ce soit, mais que tu saches que tu habites dans la demeure du Très-Haut, que personne ne peut te toucher, que tu es gravé dans les paumes de sa main, que tu es plus précieux que la pupille de ses yeux, parce que Dieu est là justement pour te faire sortir des situations les pires, si seulement tu veux. Et c'était pour ça que j'ai introduit ce message par ces versets. Si tu veux comprendre que c'est un langage, le langage de l'esprit qui doit descendre dans ton cœur, et s'il descend dans ton cœur ce soir, alors tu vas apprendre à te réfugier en lui, parce que tu en as besoin. Ce psaume, vous savez, a été écrit par Moïse. Moïse, cet homme de Dieu extraordinaire, un homme qui a su marcher avec Dieu pour faire sortir un peuple, qui s'est retrouvé dans des situations extrêmes lorsqu'ils étaient juste au bord de la mer Rouge. Oh, ils étaient dans le filet de l'oiseleur, l'armée la plus puissante du monde était juste derrière eux. Il y avait le peuple d'Israël et il y avait la mer. C'était foutu pour eux, tout du moins dans le naturel. Mais Moïse savait une chose, il savait que ce n'était pas lui qui avait amené ce peuple juste devant cette mer, mais c'était la direction du Saint-Esprit, c'était la direction divine. Et sache une chose, tu peux être au milieu de la volonté de Dieu, tu peux être au milieu de la volonté de Dieu et te retrouver devant des situations insurmontables. Mais Moïse avait compris ce
principe.
Il savait très bien qu'il pouvait être pris au piège. De même, la plus grande armée du monde
de l'époque,
c'était l'armée du monde la plus puissante de l'époque. Il savait qu'il avait quelqu'un qui était capable de le protéger. Et la nuée, la gloire de Dieu les a protégés. Pour commencer, pendant la nuit, ça les a protégés. Et au moment opportun, Dieu a dit à Moïse de faire un miracle et d'ouvrir cette mer.
Ils
ont été délivrés du filet de l'oiseleur. Non pas parce qu'ils ont traversé la mer, mais parce que la mer a englouti l'armée d'Égypte. Et sache une chose, le diable et ses petits copains seront engloutis si tu apprends à marcher dans la présence de Dieu. Vous savez, le diable essaie toujours de faire une chose. Il essaie de mettre des choses contre nous pour nous arrêter dans notre marche. Il mettra des mauvaises circonstances. Il essaiera de s'arranger pour que des gens planifient des mauvais coups contre nous. contre toi.
Il
essaiera directement d'agir contre toi. Mais si tu sais te réfugier dans la présence de Dieu, il ne te touchera plus. Parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, il ne peut plus s'approcher. Il sait qu'au bout d'un moment, tu ne lâcheras pas. Que tu demeures. Pas que tu viennes une fois de temps en temps dans la présence. Mais que tu saches demeurer
d'une
manière régulière dans sa présence. Dans sa présence. Au verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Il y a des gens la nuit parfois. Ils ont tellement peur. Des chrétiens. Ils disent j'entends des bruits. Il y a quelque chose qui me réveille la nuit. Des fois, il y a des gens qui racontent des histoires.
Mais
il y a d'autres gens qui ont des sérieux problèmes. Si tu sais demeurer dans la présence de Dieu, je te garantis, ces mauvaises présences ne viendront plus te chercher des histoires. Parce que des fois, il y a vraiment des mauvais esprits qui cherchent des histoires. Des gens qui viennent particulièrement de se convertir, qui sortent d'un passé qui est lourd, et dans leur maison, il y avait d'autres habitants qu'ils avaient invités à l'époque. Et ces habitants ne veulent pas partir. Particulièrement des gens qui ont fait de la sorcellerie. Justement, tu dois apprendre rapidement à demeurer dans la présence de Dieu. Afin que le Tout-Puissant te couvre. Que le Tout-Puissant te couvre d'une façon tangible. Afin que personne d'autre ne vienne près de toi. Que chercher quoi que ce soit comme histoire. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour. La Bible nous en parle de la flèche qui vole. Éphésiens chapitre 6. La Bible nous en parle. Éphésiens chapitre 6 au verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits ou toutes les flèches enflammées du malin.
Oui,
Satan peut essayer de t'envoyer des flèches. Mais tu dois apprendre à te réfugier. Ni la peste, verset 6, qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Si tu apprends à faire de Dieu ta retraite, ton refuge, alors ces choses seront une réalité. Cette protection deviendra une réalité. Et tu as plutôt intérêt à apprendre. Apprendre à demeurer dans sa présence. Pas à goûter quelques gouttes de sa présence. Mais à demeurer dans sa présence. Parce que c'est alors que tu verras les plus belles choses. Les plus grandes délivrances que Dieu opérera en ta faveur. Les pires circonstances changées. Les pires plans qui ont été faits par des ennemis être mis par terre. Les pires attaques sataniques être stoppées comme ça. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais pour cela, tu dois apprendre à chercher sa présence, à demeurer dans sa présence. Et tu verras aussi qu'il y a des moments où Dieu t'amènera
à
découvrir comment il fonctionne.
Aho nawe ubona ingene Imana ikora.
Lui-même t'aura poussé dans le vide.
Imana nyene imere nk'igusugumira mu kirere kumwe
twabibona. Et où le diable te dira, ça y est, c'est foutu.
Satan akubwira ngo biraheze, birarangiye.
Tu vas t'écraser.
Ubu ugira usambuke urahonye birarangiye.
Si tu écoutes cette voix.
Ariko wumvirije ryajwi.
C'est là où tu t'écraseras.
Par
contre, si tu sais demeurer dans la présence de Dieu, si tu sais écouter sa parole,
et
que tu la mets en pratique,
alors
c'est là où Dieu interviendra puissamment en ta faveur. Si les hommes ne voient pas plus de puissance de Dieu
dans leur vie,
c'est qu'ils ne connaissent pas ces principes spirituels. Ce sont des principes qui sont puissants et qui sont de la parole
qui
doivent devenir une réalité
dans chacune
de notre vie, de vivre dans sa présence, de vivre dans sa présence, de demeurer dans sa présence, de chercher sa présence, de chérir sa présence. Ça doit être notre recherche constante jusqu'à temps d'arriver toujours à un certain niveau sans jamais se relâcher.
Parce
que c'est ce que le Seigneur veut dans nos vies. C'est ce que le Seigneur veut dans ta vie. Tu peux être délivré de tous tes ennemis, de toutes tes circonstances, de toute attaque diabolique. Seulement tu apprends à demeurer à l'abri du Très-Haut, sous son ombre, c'est-à-dire dans sa présence, Et si tu veux apprendre à le faire, tu vas apprendre à le faire. Si tu t'ouvres, si tu ouvres ton cœur, si c'est pas la louange et l'adoration ne sont pas simplement du chant pour toi, mais si c'est vraiment un moyen, un véhicule par lequel tu apprends à entrer dans sa présence et à demeurer dans sa présence pour que son onction coule sur toi et qu'elle coule davantage et davantage jusqu'à temps qu'elle crée une barrière de protection énorme dans ta vie. C'est ce que Dieu veut. C'est là où tu verras les plus belles choses. En dehors de cela, la vie est fade. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fades, qui ne manifestent rien, parce que pour eux, ils étaient contents, ils ont eu la joie du salut. Et après, ils essayent de vivre petit à petit comme ils essayent de s'en sortir. Tant bien que mal dans la vie. Dieu nous appelle à autre chose. Mais ça comporte ces risques. La vie avec Dieu comporte des risques. Comme ce petit aiglon qui se fait pousser et qui devra apprendre à voler. J'aimerais qu'on prie un moment et que les musiciens viennent, s'il vous plaît.